18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Amis auditeurs, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver, c'est parti, vous le savez, ici même au sommaire, 18h-19h30, et bien tout simplement, nous analysons, nous commentons, ou plutôt nous commentons, nous analysons et donc décryptons l'actualité. Alors au menu, au sommaire de cette émission, qu'est-ce que je vous ai concocté? Et bien plein de bonnes choses. D'abord on reviendra sur, avec vous, avec la députée donc de La République En Marche, et Madame Nadia, l'ancienne ministre de la ville, justement, qui sera dans une poignée de minutes avec nous au téléphone, justement, qui va parler de la réforme des retraites, parce que ça va un peu dans tous les sens, et puis il y a d'ores et déjà une grosse mobilisation, une forte mobilisation massive contre cette réforme des retraites. À quoi peut-on s'attendre ? Ensuite, après, vous savez, chers amis auditeurs, j'ouvrirai l'antenne, parce que je voudrais vous entendre. L'entendre notamment sur la décision de la Fédération Française de Football, et puis la déclaration à l'encontre de Noël Le Graët, qui est désormais mise en retrait. Mais surtout, 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 Didier Deschamps, qui vient aujourd'hui, après avoir appris la mise en retrait, dire oui, bon, ça mérite plus qu'une clochette, ça mérite une double clochette, parce que très honnêtement, non ! On en parlera tout à l'heure au 01 53 48 3000. Et puis les débats. Alors oui, le docteur Majid Soussine viendra nous faire son petit édito, il nous parlera de la réforme des retraites, comme chaque mercredi d'ailleurs, vous le savez, et ça on le savoure. On le savoure comme du miel d'ailleurs, le docteur Majid Soussine, il est tellement bon que on prend. Ensuite, chers amis, eh bien c'est le face-à-face, vous le savez. 18h30, 19h30, pendant une heure, des débatteurs, Monsieur Ibouba, journaliste, face à Gamal Abina, qui est le porte-parole de plusieurs associations, mais également le responsable du 93 de La République En Marche, Nabil Aitakash, les trois personnalités, les trois influenceurs, viendront confronter leurs points de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. On parlera de la réforme des retraites, nous parlerons de l'éviction, la mise en retrait, tout simplement, de Noël Le Graët, mais également Christophe Dugarry qui se dit écœuré et qui balance sur ses anciens coéquipiers. Anne Hidalgo annonce un code de la rue. Tiens, clochette. Le code de la rue contre les comportements dangereux parisiens. Non, pardon, excusez-moi. Non. Vas-y, mets-moi une clochette. Je me suis un peu lâché. La France ne devrait pas exister. Vous savez qui dit ça? C'est les Russes, la télévision russe. J'ai l'impression qu'elle est en rue libre, la télévision russe. Comment elle peut s'autoriser à parler comme ça? Et elle dit que la France mérite des frappes préventives. Non mais la télévision russe, vous avez craqué ou quoi, clochette? Allez, c'est parti, vous le savez, c'est en toute liberté d'expression. Et qu'est-ce que vous êtes nombreux à nous écouter? Ça fait grave plaisir, les amis. Vous êtes très, très nombreux partout en France à nous suivre. Ça, on kiffe. C'est parti.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il y en a une aussi qu'on kiffe, c'est Nadia Hay, c'est notre invitée, et elle est députée de La République En Marche, elle est avec nous, c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Madame la députée. Bonsoir Madame Nadia Hay.
Bonsoir Adil Farkan.
Comment ça va?
Ben, ça va, et
vous? Vous nous avez manqué à l'antenne, dites donc.
Ben oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Donc effectivement, vous aussi, vous m'avez manqué. Les auditeurs de Beurre FM m'ont manqué aussi.
Absolument.
Et d'abord, je veux commencer cette interview par vous souhaiter une excellente année à vous, à toute l'équipe de Beurre FM et à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Absolument. Et écoutez, très nombreux, vous savez qu'ils sont très très nombreux à vous écouter. Hein.
Ben, vous savez, ça ne m'étonne pas. La radio cartonne et c'est bien.
Madame la députée, Madame Nadia, justement, il y a une actualité qui fait beaucoup parler d'elle, vous savez. C'est depuis l'annonce de la Première ministre, Elisabeth Borne, concernant la réforme des retraites. Eh bien, d'abord, je voudrais vous faire réagir. Il y a une forte mobilisation massive contre la réforme des retraites qui est en train de s'installer. Pas dans les esprits, elle est en train de s'installer. Est-ce que ça s'annonce comme en 1995, grand point d'interrogation que je vous pose?
Écoutez, en tout cas, je ne souhaite pas que nous arrivions au point de blocage que nous avons connu par le passé. Effectivement, il y a l'annonce de cette réforme des retraites qui est une actualité pour le gouvernement, pour la majorité présidentielle. Mais j'ai envie de vous dire, même au-delà, c'est une actualité pour notre pays. Aujourd'hui, le constat est clair. Je crois d'ailleurs même qu'il n'est même pas contesté sur le fait que nous avons un système de retraite qui, à partir de l'année 2023, va coûter de l'argent aux Français, aux contribuables. Et donc, c'est plus Pour 2023, c'est plus de 2 milliards d'euros au budget de l'État. Et si nous continuons comme ça, en 2030, c'est près de 14 milliards d'euros. Donc, nous faisons ce constat. Soit nous décidons de ne pas agir et de laisser un système qui s'effondre, soit nous prenons nos responsabilités et nous agissons pour la protection des Français. C'est ce choix-là que nous avons fait.
Sauf que, est-ce que cela ne nous fait pas craindre un certain nombre de choses? Parce que les syndicats, ils disent quoi? Ils disent qu'ils comptent riposter pour forcer le gouvernement à reculer. Est-ce que vous êtes prêt à reculer, justement? Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas encore un peu plus supplémentaire? Vous, les députés, puisque je sais que le débat s'installe désormais et qu'il est parfois houleux au sein de l'hémicycle.
Ce qu'il faut d'abord dire, c'est quel est le point de désaccord entre les syndicats et le gouvernement. Les syndicats le reconnaissent aussi qu'il y a un problème aujourd'hui dans le financement de notre système de retraite par répartition et que le système il va commencer à être déficitaire dès cette année. Et les syndicats avancent une solution que nous n'avons pas retenue, qui est celle d'augmenter les cotisations pour l'ensemble des salariés de notre pays. Ce qui veut dire que concrètement, chaque mois, nous retenons plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros à des Français pour pouvoir financer notre système de retraite. Donc nous n'avons pas pris ce choix d'augmenter les cotisations ou même d'augmenter les impôts que nous avons choisis, enfin l'option que nous avons choisie depuis 2017, c'est de baisser les impôts pour les Français. Eh bien, nous n'avons pas non plus retenu cette proposition qui consiste à augmenter les impôts et pour équilibrer et financer notre système de retraite, reste cette troisième option qui est d'augmenter la durée de travail et de cotisation. C'est celle-ci que nous avons choisie, qui de toute façon, de manière inéluctable, nous y arriverons. Parce que je rappelle qu'en 2014, il y a eu la réforme Maricel Touraine qui a été votée et qui amène à augmenter les durées de cotisation, les durées de cotisation par trimestre, qui nous amènera de toutes les manières à travailler plus. Donc, effectivement, c'est ce choix-là que nous avons privilégié, accélérer cette réforme pour que nous puissions contribuer au financement du système dès 2023.
Madame la députée, Madame la Diaye, justement, je vous demanderai, parce qu'on a quelques difficultés justement de rendre la chose audible à l'antenne, si vous voulez bien régler votre téléphone de façon à ce qu'on puisse mieux vous entendre en direct, parce qu'on vient de me le signaler, justement, s'il vous plaît. Madame la députée, justement, j'ai encore quelques questions, parce que concernant cette réforme des retraites aujourd'hui, vous savez qu'elle est confuse, vous savez que dans l'esprit, évidemment, des Français, les Français ont un peu de mal à suivre cette réforme des retraites, et beaucoup nous disent, vous savez, sur notre antenne, je parle, hein, sur notre antenne ici même, puisque j'ouvre l'antenne, que évidemment beaucoup d'entre eux interviennent et veulent savoir pour quelle raison il y a une urgence à vouloir faire cette réforme de retraite. Et puis surtout, est-ce qu'il y a une priorité aujourd'hui quand on voit le contexte social, le contexte économique et le contexte tout court, la conjoncture aujourd'hui qui fragilise les Français?
Il y a une urgence à intervenir parce que comme je vous l'expliquais, nous rentrons dès 2023 dans un système qui est déficitaire.
Est-ce qu'on peut améliorer la liaison de votre téléphone, parce que on a vraiment, je vous promets, on a beaucoup de mal à vous capter, à vous entendre. Je suis désolé, mais la liaison n'est pas très bonne.
Alors je vous entends très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça?
Ah oui, là oui, oui, ah, oui. Là on a même presque, on a presque le sentiment que vous êtes avec nous sur en plateau.
Ah, c'est excellent. Alors, c'est encore mieux. Moi, je préférerais être avec vous sur le plateau.
Mais vous allez venir. Allez venir sur le plateau et répondre à nos auditeurs. On va faire une émission spéciale, justement, sur cette réforme des retraites avec vous. Je vous l'annonce en direct, justement.
Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, parce que c'est une retraite qui doit bien être comprise. Nous savons que c'est une réforme qui n'est pas populaire, parce que nous avons tous vu ce sondage sur l'acceptation de cette réforme par les Français. Et je peux vous dire moi-même, Adil, si on m'avait posé la question il y a 6 ans, quand j'ai travaillé dans le privé, j'aurais également répondu non à la question « souhaitez-vous travailler plus longtemps ?». Mais quand nous sommes en responsabilité, que nous faisons le constat d'un système qui est déficitaire, d'un système qui est mis en danger pour les générations futures, que nous faisons aussi le constat que la courbe démographique est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'on aura plus de retraités que nous n'en avons aujourd'hui, et moins d'actifs que nous en avons aujourd'hui. Donc, nous sommes très attachés à ce système de retraite qui nous oblige aujourd'hui à prendre des décisions prendre ce type de décision, mais c'est en responsabilité et avec courage que nous disons aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont concernés par la réforme que si nous ne prenons pas cette décision aujourd'hui, notre système va être mis en danger demain. C'est exactement ce qui s'est passé pour le système de la santé. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'organisation de nos forces de l'ordre. C'est aussi ce qui s'est passé pour le système de la justice. Parce qu'à un moment donné, il y a 10 ans, 15 ans, il aurait fallu prendre des décisions courageuses et dire la vérité aux Français. C'est pas ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous en payons le prix fort. Nous ne voulons pas, dans 10 ans, 15 ans, expliquer à nos concitoyens qu'en 2022, nous n'avons pas eu le courage de faire une réforme parce qu'elle n'était pas populaire.
Voilà. Effectivement, ça le mérite quand même qu'on s'attarde un peu plus. Effectivement, on fera une émission là-dessus concernant la réforme des retraites pour que nos auditeurs puissent comprendre. On entrera un peu plus, si vous voulez, évidemment, dans le détail. Dites-moi, vous savez, il y a une jeunesse qui s'inquiète, une jeunesse qui se pose des questions et qui s'interroge, et c'est légitime d'ailleurs, pour son avenir. Comment vous voyez les choses, vous, Madame la députée, Madame Nadiel, concernant cette toute nouvelle proposition de réforme des retraites annoncée justement hier par Elisabeth Borne? Comment vous voyez les choses? Et là, je parlerai de notre jeunesse.
Eh bien, évidemment que cette jeunesse s'inquiète. Et j'ai envie de dire que moi, je trouve que même c'est plutôt un bon signal qui est envoyé par notre jeunesse. Parce que par le passé, je travaillais dans le système bancaire. Et quand j'interpellais des jeunes de 19, 20, 25 ans, quand ils commençaient à avoir des petits boulots, ou quand étudiants, ou alors quand ils entraient dans la vie active et que je leur parlais retraite, j'avais une réponse favorable d'une sur 10. 9 autres fermaient toute discussion sur les retraites, me disant très clairement que c'était un sujet qui ne les concernait pas aujourd'hui, qu'aujourd'hui ils ont d'autres priorités, ou alors que c'est un sujet qu'ils ont d'ores et déjà fermé parce qu'ils pensent très clairement qu'ils n'auront pas le droit à la retraite. Donc moi je pense que la jeunesse envoie un signal très positif de s'intéresser à toutes les réformes et les décisions que nous prenons aujourd'hui qui les concernent elles aussi, en même temps que tous les autres nos concitoyens, mais qui les concernent elles aussi, et de faire justement la transparence, dire les choses en toute vérité, de manière très, très franche, sur le constat, sur les solutions que nous mettons en place. Et c'est dès qu'on fait un focus, pardonnez-moi, je termine par là, on fait un focus sur l'âge et sur cette durée de cotisation supplémentaire. Par contre, ce qu'on écarte aussi parfois, souvent d'ailleurs de manière volontaire quand il s'agit de nos oppositions, c'est toutes les avancées sociales qu'il y a dans cette retraite. C'est la prise en compte des carrières hachées, du travail des femmes, de l'usure aussi dans le travail. C'est aussi vraiment apporter des mesures de progrès en augmentant les minima de pension pour les retraités qui ont des petites pensions de retraite avec ce seuil à se planter.
Comment s'annonce le débat d'ailleurs? Comment s'annonce le débat au sein de l'hémicycle avec vos collègues d'ailleurs, Madame les députés?
Ah ben, vous savez, l'hémicycle est divisé. Vous avez aujourd'hui les Républicains qui sont le plus en soutien de cette réforme parce que la question budgétaire, la question du déficit public, la question de la dette et du budget de l'État, ce sont des choses qui les intéressent beaucoup. Et puis vous avez de l'autre côté une gauche qui est totalement aujourd'hui opposée à quelque réforme que ce soit, avec des mesures tout aussi démagogiques que celles du Front National qui propose une retraite à 60 ans sans dire véritablement comment il compte financer cela, et donc qui n'apporte aucun soutien, même pas un soutien sur les avancées sociales.
Comme
et ça, je trouve ça dramatique pour les ministères gauche de notre hémicycle.
Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question avant de rendre justement, parce que je dois lancer la pub, Madame la députée. Dites-moi une petite question concernant d'actualité, concernant la Fédération française de football. Vous avez évidemment suivi les propos du président, Noël Le Graët, tenu à l'égard de notre légende footballistique Zinedine Zidane. Vous, ça vous a fait réagir, ça vous a fait bondir. Et est-ce que vous saluez, comme Madame la ministre, la décision de la Fédération française de football?
Alors non seulement ça m'a fait bondir, mais en plus j'ai réagi et publiquement, puisque j'ai fait un tweet le jour même de cette déclaration à l'égard de notre légende du football français, qui est Zinedine Zidane. D'ailleurs, je pose la question aujourd'hui aux jeunes, aux moins jeunes, qui est la personne qui représenter plus le football français, tout le monde m'invoquera Zinedine Zidane avant même de m'invoquer Noël Le Graët. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été vraiment choquée, déçue aussi qu'un président d'une fédération aussi importante que celle du football puisse tenir des propos sur une personne aussi charismatique, aussi importante, emblématique, qui a marqué l'histoire du foot et l'histoire du sport français. Donc autant vous dire que cette mise en retrait, non seulement je suis vraiment contente, je salue la Fédération française de football, et je serai aussi attentive aux résultats de l'audit mené sur ses agissements autres que les propos qu'il a tenus vis-à-vis de notre légende de foot que nous n'oublierons jamais.
Voilà. Nadia, et merci infiniment d'avoir été avec nous, et alors on se retrouve très vite pour cette émission spéciale consacrée à la réforme des retraites.
Très vite, avec plaisir.
Merci Madame la députée, merci à vous d'avoir été avec nous sur l'antenne des informés. On se retrouve dans une poignée de minutes, tout de suite après au 0153483000 pour réagir sur l'affaire de la décision de la Fédération française de football et notamment les différentes déclarations. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, j'ouvre l'antenne, c'est parti, vous le savez, c'est vous qui avez la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Et les informés vous donnent la parole.
Absolument, 18h23, je voudrais vous entendre partout en France venir vous emparer de votre portable, venir notamment vous emparer d'une autre standard. Au 01 53 48 3000, Anthony vous attend. Noël Le Graët est officiellement mise en retrait à la présidence de la FFF, la Fédération française de football. La déclaration justement de Didier Deschamps, elle tarde. Pour moi, elle a tardé à venir quand même. Il a attendu qu'il soit évincé, qu'il soit mis en retrait pour faire une déclaration. Écoutons-le. Écoutons Didier Deschamps, justement, ce qu'il dit, notamment la réaction face aux propos tenus par Noël Le Graët en direction, envers Zinedine Zidane. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ça suffit, justement, cette décision 0153 48 3000, la déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France? Écoutez.
Concernant la dernière actualité, avec les déclarations de mon président, donc bien évidemment... ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Donc voilà.
Bon, chers amis, vous avez entendu comment la réaction de Didier Deschamps. Moi, je trouve personnellement, je vous le dis clairement, chers amis auditeurs, qu'il a tardé à réagir. Il aurait dû réagir aussitôt et réagir aux propos de Noël Le Graët. Je trouve que là, il a profité d'attendre la décision, peut-être que je me trompe, la décision de la donc du COMEX, la comité de direction donc extraordinaire, pour venir faire cette déclaration. Et je trouve que effectivement, bon, est-ce qu'il voulait pas mouiller sa chemise, est-ce qu'il voulait pas se mouiller avant? Est-ce qu'il craignait pour lui-même? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose en tout cas. Venez en parler ici même au 01 53 48 3000. Est-ce que vous trouvez que Didier Deschamps a tardé justement pour donner son sentiment sur les propos inacceptables tenus par Noël Le Graët, ou est-ce que il a bien fait, bien au contraire, d'attendre la décision du COMEX, du comité de direction? Aujourd'hui, je le rappelle, le comité de direction a tranché, il a mis en retrait donc du président de la fédération, Noël Le Graët. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite là maintenant au standard, chers amis, pour répondre donc à cette question et pour venir converser ensemble sur la décision, mais également aussi sur Didier Deschamps.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Eh ben, je ne bouge pas, je vais prendre le premier auditeur, celui qui nous appelle, on l'attend au 01 53 48 3000, 18h26, justement 27. Je voudrais, avant de retrouver le quoi de neuf avec le docteur Majid Soussine, eh bien, nous vous attendons, Anthony vous attend précisément au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Quel est le premier auditeur qui va passer? Nous vous attendons. C'est parti. Allez, il y en a un qui nous appelle justement. C'est parti. Ça, il suffit qu'il y en a un qui lance la machine et tous les autres suivent. 01 53 48 3000. C'est comme ça. C'est le principe de la radio. 01 53 48 3000, amis auditeurs, c'est parti. Je voudrais vous entendre justement sur le Gret qui est désormais écarté, mais surtout Didier Deschamps qui a attendu la décision du COMEX pour répondre. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait ou est-ce qu'il a tardé à le faire? Moustapha, bonsoir Moustapha. Bonsoir Moustapha.
Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux aussi également, bonne année. Vous nous appelez d'où Moustapha?
De Paris.
De Paris. Eh bien, bienvenue. Qu'est-ce que vous dites, vous, alors, justement, avec ce que je viens de soulever, justement, Moustapha?
Alors, je pense qu'il y a une hypocrisie. Il faut assumer ses actes. Il ne faut pas... Oui. C'est vrai, il ne veut pas se mouiller. On essaye vraiment de... Je pense qu'on vit une époque où, vraiment, on nous fait sentir qu'on est des citoyens de seconde zone. Et on peut faire ce qu'on peut faire. Je pense qu'il y a un problème de reconnaissance. Il y a un réel problème. Il y a une fracture sociale. Et on le voit. C'est-à-dire une icône, un exemple, un modèle de réussite.
Ouais.
Moi, j'aime pas le mot intégration. Hein. L'intégration, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, c'est pas faire une crispation identitaire se diluer dans une assimilation. Du coup, l'intégration, c'est autre chose. Et là, les gens qui donnent un exemple aux autres, on essaie de les casser comme ça.
Ouais.
Il y a un réel problème dans les grandes instances. Il y a du lobbyisme, il y a du clientélisme. C'est fermé, c'est clos. Et j'ai compris ça depuis.
Je pense qu'il faut profiter, Moustapha, de mise en entrée maintenant qu'il est mis sur le banc de la touche, justement, Noël Le Graët. Je pense qu'il faut complètement, avec cet audit qui est en train de se faire, de profiter de faire le nettoyage complet au sein de cette fédération.
Ça sera pas pour nous, ça sera pour nos enfants.
Peut-être.
Excusez-moi, peut-être. Hein, c'est pas un manque d'optimisme ou quoi que ce soit. Je suis pas pessimiste, mais c'est une réalité.
Bon. Eh ben, merci, Moustapha.
Pardon ?
Merci à vous d'avoir réagi.
Ok, merci à vous. Bonne continuation. Vous faites du bon. Gardez la pêche. C'est un plaisir de vous écouter. Vous donnez envie de... Il faut s'exprimer, il faut dire.
Vous avez raison. Partager. Eh bien, plaisir. D'abord, je vous remercie, mon cher Moustapha, et plaisir partagé. Vous le savez. Faites passer le mot. Les informer, c'est ici que ça se passe. 18h, 19h30. Merci.
Et encore une fois... voilà, on est français à part entière.
Exactement.
Quand bien même on vient de...
Moustapha, faut aller vite. Hein.
C'est la France, on se bat pour la France, on paye des impôts en France. Et pourquoi on est traité comme ça? Parce que pas de posture victimaire. Je pense qu'on le mérite.
Absolument.
On ne prend pas notre destin en main et on n'est pas représenté politiquement et on n'a pas accès à la finance, on sera toujours des citoyens de seconde zone.
Bon, bah, j'espère pas, mais bon... Allez, mon cher Moustapha, à très bientôt.
Voilà.
À très bientôt et prenez soin de vous. À bientôt, Moustapha, et prenez soin de vous. Je sais pas, vous m'entendez, mais vous m'entendez pas, Moustapha, je crois, quand je vous parle, hein. Vous m'entendez pas du tout, hein. Merci, Moustapha, pour votre intervention et au plaisir, hein. Amadou de Grenoble, bonsoir, Amadou.
Bonsoir.
Bonsoir, ça faisait longtemps que vous nous avez pas appelé, vous. Amadou de Grenoble. Amadou, on a un problème de connexion avec vous, mon cher Amadou. Que se passe-t-il? Il y a un problème de connexion. Bon, Amadou, écoutez, on a un souci avec vous de connexion. N'hésitez pas à nous rappeler, on vous prendra à l'antenne parce qu'on a un problème de connexion. Le Quoi de Neuf, avec une minute de retard, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, vous le savez, chers amis auditeurs, et vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre et à suivre ses billets d'humeur, c'est le grand professeur Majid, c'est aussi le docteur Majid Soussine. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir, Adil.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, pas trop mal. Hein.
Plaisir que vous soyez avec nous.
Bah écoutez, moi juste un plaisir que chaque semaine, à chaque fois.
Absolument, vous savez, vous êtes une véritable star sur BFM, vous, hein, dans Aux Informés. Vous avez décidé de consacrer votre édito sur la réforme des retraites, on vous écoute, cher docteur.
Bah oui, mon cher Adil, voyez-vous, c'est les soldes. Faites chauffer la Mex Black and Limited.
Ah, vous démarrez fort, vous, hein.
Ah oui, oui, et je vous conseille d'acheter de belles paires de baskets et une trottinette car va falloir se réhabituer aux grèves.
Non, la trottinette, il y a le code de la route d'Anne Hidalgo qui sort le code de la route. Donc je vais me faire taper dessus par Anne Hidalgo, vous n'avez pas suivi ?
Ah bah, Anne Hidalgo, elle adore taper de toute façon. Mais ça, c'est un autre débat. Mais parce que mon cher Adil, il va falloir que vous vous réhabituiez aux grèves. Ça va nous rajeunir, ça va nous ramener, vous savez, à 95, avec Juppé Premier ministre et Jacques Chirac président. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a un petit côté raide dans mes bottes chez Elisabeth Borne, vous ne trouvez pas, vous?
Moi, je vous suis pas. Je me désolidarise.
Blague à part, en tout cas, il l'a presque fait, Emmanuel Macron. 43 années de cotisation, c'est long. Pas pour vous, Adil, qui êtes payé à rien faire,
ouais, c'est
ni
ça,
pour
ouais.
moi d'ailleurs, qui suis juste payé pour tyranniser les... Ni moi qui ne fais rien d'autre que de tyranniser les infirmières, voire un peu plus. Non, moi je pense surtout aux petits, qui ont les tâches les plus dures et les plus ingrates. Pour cela, la pénibilité, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Ils la vivent dans leurs lombaires, leurs articulations radiocarpiennes. Et il ne faudrait pas l'oublier dans une société qui se veut encore solidaire et j'espère qu'on prendra en compte leur pénibilité. Et dans le genre pénible, il y en a un qui a l'air d'en connaître un sacré rayon, et je ne parle pas de Noël Le Graët. Lui, c'est tout simplement un espèce de dinosaure lourdingue et beauf, presque un monument de la goujaterie en péril. Je m'étonne seulement qu'on le découvre aujourd'hui parce que j'ai pas l'impression que ça ne date que d'aujourd'hui. Et je finis par me demander si cette campagne ne cherche pas à recaser quelqu'un, je ne sais pas. Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot, je vous laisse spéculer Adil, je sais que vous êtes très fort dans ce domaine. Non, dans le genre pénible, il y a cette espèce d'atmosphère poisseuse, de pessimisme qui nous colle au basque et qui règne en ce moment. Partout des visages renfermés, de l'agressivité dans la circulation, on n'entend plus que les prophètes du déclin. Et vous voyez, hier, j'étais de garde aux Invalides, et comme vous le savez, Adil, c'est le seul endroit où je regarde la télévision. Et à 7h du matin, j'enchaîne les 4 chaînes d'information. Sur CNews, l'habituelle litanie qui frise le discours de l'extrême droite, mais ils sont tellement persuasifs que j'avais peur de me regarder dans le miroir, tant je redoutais d'être effrayé par le regard menaçant d'un maghrébin qui ne manquerait pas de me menacer de me trancher la gorge. BFM, quant à elle, faisait le catalogue, la redoute des catastrophes et des menaces, tant et si bien que j'ai pris peur, j'ai fait un mail à mon assureur pour vérifier que tous mes contrats d'assurance étaient à jour, je vous rassure, c'est le cas. Sur LCI, alors après 24 heures de s'endormir, je dois dire que j'ai pas très bien compris ce que racontait l'invité.
Arrêtez avec LCI. Ça,
bon, je sais pas, vous connaissez cette chaîne. Quant à France Info, à force de revoir 3 fois le même reportage, j'ai fini par me demander si je faisais pas des crises d'épilepsie temporale. Et j'ai fini par me poser la question de savoir si cette chaîne n'avait pas été inventée pour rééduquer tous les malades d'Alzheimer de France. heureusement, il nous reste le canard enchaîné. Ah. Il sort le mercredi et qui sait nous parler de choses sérieuses avec humour.
On l'attend.
Cet esprit français, la raillerie nous manque tant dans cette époque de certitude et de prêt-à-penser.
Comme vous.
Un peu, oui. De certitude et de prêt-à-penser. Où nous sommes asphyxiés par des gens qui pensent tous avoir raison sans aucune nuance.
Ah là là, magnifique, hein, magnifique. Vous savez que c'est un régal, vous le savez, vous mesurez ça ou pas?
Bah écoutez, je vous demande de me payer plus cher que ce que vous me payez, hein.
Oui, je crois qu'on va renégocier.
À ce compte-là, hein.
On va en parler avec la direction générale. Alors je voudrais vous dire une chose, c'est Yanaïr, dites-moi...
Asgouès, ça me guesse.
Voilà, absolument excellente année hein, à oui. tous nos amazirs de France qui nous écoutent et qui sont très très nombreux. Justement,
faites chauffer le couscous au poulet et les fruits secs.
Absolument, les fruits secs et le couscous au poulet, Yann Aël, on voudrait leur souhaiter une excellente année donc à tous les amazirs notamment qui nous écoutent et ils sont très très nombreux. Merci mon cher docteur Majid Sioussine.
À votre service mon cher Adil.
À mercredi prochain sans faute.
Avec joie.
Avec autant de billets corrosifs.
J'essaye, je trempe mon encre dans l'acide chaque semaine et je ne la fais pas pour le mercredi.
Merci à vous, allez, prenez soin de vous, on vous embrasse.
À bientôt.
On marque la pause pub, on se retrouve avec vous, 0153 48 3000 et notamment le face-à-face avec les débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, vous le savez, c'est les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et il est 19h42. Vous pouvez continuer à nous appeler au 01 53 48 3000. Anthony se fera un plaisir de vous accueillir au standard, comme vous êtes nombreux, ici même, pour défiler sur notre antenne. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. le face-à-face.
Et ils sont là, ça y est, ils sont comment dirais-je, tout beaux, tout bien. Ils ne veulent qu'une seule chose, c'est de s'emparer du micro. Ibouba, bonjour Ibouba, bonne année.
Bonne année Adil.
Viens dans le micro.
Bonne année Adil Farkan, bonne année à tous nos auditeurs donc de Bar FM.
Comment ça va?
Bien, ça va très bien.
Tout va bien. Journaliste toujours, plus que jamais.
Toujours journaliste et puis on est là, on ne lâche rien comme vous le dites.
Ouais. La marque c'est, Adil Farkan. C'est que c'est ces histoires de, le même suit partout maintenant désormais.
Maintenant.
Tout le monde me dit oui. Alors comme vous dites vous, on ne lâche rien. C'est vrai.
On ne lâche rien.
Tout le monde me dit ça.
C'est la marque Adil Farkan.
Eh ben tant mieux.
2023 encore plus en plus.
Tant mieux. Qui est arrivé bronzé. Ça existe encore, ça, à cette période-là?
Ça existe encore.
Moi, je balance, hein, Nabila et Takash. Et Nakash, pardon.
Bonjour, Adil.
Ça va? Attendez, on va ouvrir le micro, parce qu'il n'est pas du tout ouvert, votre micro. Il n'est pas du tout ouvert, il est faible. Bon, allez-y, vous pouvez y aller.
Non, je suis très heureux.
Ah, là, oui.
Très heureux de vous retrouver, Adil. Bonne année à tous les éditeurs.
Bonne année.
Vous le précisiez, hein, il y en a hier, donc Imaziran. Bonne année à tous les berbères.
À tous les Berbères, à tous les Amazirs.
Qui nous écoutent, exactement.
Absolument, et ils sont très dans le...
Les Maziran, parce qu'Amazir, c'est le singulier.
Oui, c'est vrai. Absolument, vous avez raison. Merci de me corriger. Gamal Abina, je ne le présente même plus, Gamal Abina. Comment ça va, Gamal?
Comme d'habitude, Adil, vous allez
tout bien.
Bonne année à tout le monde, toutes et toutes.
Même fauteuil, même micro.
Mêmes habitudes.
Les mêmes habitudes. Son portable qui est posé sur sa gauche. Non, mais ça ne change pas. Il y en a, vous savez, ils ont des tocs. Je vous jure, c'est vrai. Hein.
Et puis, je veux dire, Happy New Year, Happy Yenayer. Hein.
C'est ça, les deux à la fois. Ouais. Allez, messieurs, tout de suite, vous savez quoi? En attendant, on vous appelle au 0153-48-3000. Je voudrais vous faire réagir avec justement cette toute nouvelle qui vient de tomber, c'est l'affaire Le Graët. L'affaire Le Graët avec notamment la première réaction de Didier Deschamps tout à l'heure, on va peut-être le réécouter, mais la mise en retrait, ce que évidemment aujourd'hui, je voudrais vous faire réagir, le comité exécutif extraordinaire qui a convoqué donc Noël Le Graët, il est en retrait, le directeur général mis à pied, bref, tout cela, est-ce que ça suffit? Et évidemment, on n'oublie pas les propos tenus inacceptables à l'égard de Zinedine Zidane. Gamal Abina.
Avant de le massacrer, on va rigoler un peu.
J'aime bien.
Le Graët, au moins, il a respecté la loi Macron qui voudrait plus de 65 ans. Il a 81 ans et bosser encore. C'est bien pour lui. En même temps, c'est une véritable petite mafia familiale, j'allais dire. Alors, quand je parle de mafia familiale, c'est que les propos tenus, on va revenir très rapidement sur les propos contre Zidane, sont les propos méprisants.
Ne soyons pas radical, hein, attention. Hein.
Non, du tout, je ne suis pas radical. C'est lui qui était radical. Méprisant, arrogant, hautain. Vraiment, il y a un mépris de classe, il y a un mépris de race. Parce que clairement, j'ai le sentiment que dans cette façon de déraper, il était peut-être très aviné ce jour-là, il s'est quand même lâché comme une bête sauvage. Ensuite, la question qui se pose, c'est... Alors moi, j'ai eu toujours des problèmes avec Le Graët, et j'ai toujours eu des problèmes avec Deschamps, qu'on protège de façon délirante parce qu'il aurait été champion du monde. On va se calmer un peu. Les dossiers commencent à sortir. Il y a eu une déclaration de Dugarry, mais d'autres. Hein. Ça commence à venir.
Écœuré Dugarry. Écœuré, voilà. Se dit.
Et on peut le comprendre. Je rappelle tout de même qu'en France, dans un pays où il y a à peu près 10% de la population estimée qui serait d'origine nord-africaine, et largement africaine en plus, si on prend l'équipe globale, dans les clubs de foot où il y a massivement une représentation des Maghrébins, qui ne sont pas les derniers en foot, on est d'accord, on le voit bien avec la Coupe du Monde, hein, en règle générale, ils sont bons.
Enfin, Maghrébins des quartiers populaires, c'est des Noirs et des Arabes, quoi.
Bien sûr. On se rend compte que, alors, pour les Noirs, ils n'ont pas fait trop d'histoire. Ils ont une tolérance qui est très limitée, mais là-dessus, ils se disent, bon, ça va, ils sont quand même sportifs, on leur laisse la place. Pour les Arabes, par contre, ils ont fait le ménage. Et moi, ce qui m'a choqué, ça fait des années que ça dure avec cette équipe de France.
Vous êtes tout en train de nous dire qu'il y a du racisme à l'égard de
Maghrébins? Non, mais clairement, je dis racisme anti-maghrébin, c'est clair et net.
Ah bon?
C'est quand même évident. Zidane a été
attaqué.
Vous allez
loin, là, non?
Mais non, je suis pas loin. Zidane, il a attaqué violemment.
Je sollicite nos auditeurs pour savoir s'ils sont d'accord. 0153483000.
On va donner quelques éléments. Zidane a attaqué violemment et de façon sale, hein. C'est pas propre, ce qu'il a dit. Il fera rien au Brésil. Sous-entendu, c'est un incapable. De toute façon, moi, je veux parler, je décroche pas s'il m'appelle. Enfin, c'est vraiment du mépris absolu. Eh bien, moi, j'aurais dit, pour un tic qui est quand même Zidane, c'est le tic qui attaque personne.
Non, mais Zidane.
On peut pas dire que ce soit une icône de violence.
Zidane, c'est la légende.
Voilà, et donc il attaque personne, il a jamais craché sur personne, il a jamais critiqué personne, Zidane. C'est quand même le tic dont on peut pas dire qu'il est agressif.
Non.
Il a été attaqué violemment. Après, il y a l'affaire Benzema.
La grande classe.
Benzema a été écarté de façon extrêmement douteuse.
Ça va sortir, ça, tout. Vous allez voir, ça va sortir.
Juste pour finir.
Ça viendra.
Benzema, douteuse de l'équipe de France, il a renvoyé par avion comme un paquet sale. Et encore avant, il y a eu Ben Arfa, Nasri. Enfin, je veux dire, le nettoyage, il est clair. Hein. Il est impossible de penser qu'une équipe de France n'ait dans ses rangs aucun arabe. Alors évidemment, ils ne peuvent pas dire on n'est pas raciste puisqu'il y a des noirs. Mais ça, c'est un argument qui ne tient pas la route. En substance, ces messieurs se sont comportés de façon extrêmement douteuse. Je le dis douteuse. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a la preuve. Mais par contre, il y a des propos qui commencent à sortir. Le scandale a éclaté et il était nécessaire et obligatoire de mettre sur Le Graët une bonne fois pour tout dehors, de Le Graët, Le Pen, même combat.
Ouh là 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 là, c'est chaud là, c'est chaud. Et Bouba?
Ah, Le Graët, je crois que toujours Le Graët, c'est toujours lui. De toute façon, nous avons tous notre vision, qu'elle soit spontanée, qu'elle soit spontanée ou qu'elle soit autrement dit. Il faut juste arrêter de prendre les gens comme des citoyens de seconde zone. Je crois qu'un auditeur l'a dit ici et moi je l'approuve absolument. La France a dépassé cela. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui font le boulot sale et qui, les gens sont pas fous. Nous sommes tous dotés de raison. Nous avons notre vision des choses aussi. Même si on n'est pas des professionnels ou on n'est pas non plus des amateurs. Donc de second degré du foot, mais nous avons nos yeux, nous pensons, nous réfléchissons très bien, nous voyons bien ce qui se passe. Nous avons vu le cas Benzema, c'est le plus lyrique d'ailleurs que vous pouvez trouver. Zinedine Zidane. Je crois que aujourd'hui la France doit beaucoup à Zinedine Zidane. C'est pas le moment quand même de cracher sur ce mec qui a tout donné, qui a tout fait pour la France. Je crois que il a été chéri par tous les Français et je crois que ça sera très
mal. Il fait partie du palmarès
du palmarès des Français, quand même.
Justement.
Le football français.
Avec Omar Sy,
il y a la marque, il y a
Goldman.
Même Omar Sy aujourd'hui est critiqué, vous savez très bien ce qui se passe.
L'affaire du tirailleur.
Donc il faut qu'on essaie de dépasser cela. Et les gens sont pas des fous. Cette France, on l'occupe tous, on vit tous, on est dans le même bateau. Si on coule, on va couler tous. Et ça, il faut que les gens ils parviennent à comprendre ça. Il y a des gens qui aujourd'hui, qui ont une teinture qui je ne sais quoi, qui se prennent je sais pour qui. Quand la France gagne, aujourd'hui, on ne voit pas ces noirs et ces arabes. Et quand la France ne gagne pas, ben voilà, c'est toujours ces noirs et ces blancs. Je vois, je me rappelle un tout petit peu donc de l'interview comment ça s'appelle ?
Qui ça ? Didier Deschamps ?
Non, pas Didier Deschamps, l'adjoint à Marine Le Pen, qui je ne veux même pas
prononcer. Bardella ?
Voilà, Bardella.
Bardella, c'est le président.
Non, mais oui, d'accord. Mais c'est qu'aujourd'hui, il faut freiner ces gens-là. Il faut les faire comprendre, justement, que la France ne s'est pas créée.
Ah, lui, justement, il a tapé sur Noël Le Graët. Ouais, il a réclamé des excuses, Bardella.
Non, mais oui.
Il est malin.
Oui, mais malin, plus malin que lui existe aussi. Là, on est tous dotés de raison, comme vous le dites. À un certain moment donné, je crois que ça va péter. Mais il faut qu'ils arrêtent un tout petit peu, qu'ils arrêtent de prendre des gens comme des citoyens de seconde zone. Il faut que ça s'arrête un tout petit peu.
Vous, Ibouba, vous parlez de seconde zone.
Ben voilà.
C'est ça. Tiens, avant de vous donner la parole, Nabil Aït Nakache. Amadou de Grenoble. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Non,
il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Excusez-moi.
Excellent.
Désolé. Votre mère va m'en vouloir.
Aïe.
Madame, j'ai pas fait exprès. Hein. Amadou, bonsoir de Grenoble.
Bonsoir.
On vous écoute sur l'affaire, justement. On a un problème de connexion avec vous, décidément, Amadou. Hein. On peut pas. Hein. Il y a un gros problème de connexion. Essayez de régler votre téléphone, mais on a un gros souci avec votre liaison. 0153483000, vous nous appelez, vous réagissez. Et justement, je vous sollicite pour réagir à cette affaire-là. Nabil Aït Nakache.
Vous l'avez bien dit, merci Adil. je pense que je ne vais pas répéter ce qui vient de se dire. On est tous d'accord, les propos sont inacceptables, minables, vraiment minables. Moi, quand je les ai entendus, je me suis dit, mais même Zidane, en fait. C'est-à-dire que même quand on est Zidane, il en a pas fait assez, en fait. Enfin, c'est-à-dire
c'est
que
ça qui est terrible, c'est
irréprochable. Parfois, on se dit, bon, allez, il y en a qui sont pas irréprochables. On doit être à 100%, comment dire, ne pas dépasser Zidane, c'est exactement ça. Et donc, moi, j'étais un peu triste, en fait, d'entendre ces propos. Je suis très heureux que l'ensemble de la, comment dire, de la société, hein, parce que là, ça dépassait les politiques, disait pour dire que ses propos étaient inacceptables.
Moi, je trouve que la mobilisation, on n'était pas suffisamment à la hauteur de ce
qu'on... fédération. Non, après,
hein, faut pas tomber. C'est pas mal. Non,
après,
c'est pas mal.
Non, mais après, il faut pas tomber non plus dans le. C'est des propos d'un pauvre monsieur qui a, voilà.
Ce pauvre monsieur.
Oui, non, mais c'est un pauvre monsieur.
Nabil, je vous en prie, il est président de la fédération.
Il a toujours mal fait.
Bien sûr. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est.
Son âge ne m'excuse pas.
On va pas remettre, enfin, dire que c'est toute la France.
Non.
Ces propos n'engagent pas les Français. C'est quelqu'un qui est issu d'un vieux système, qui n'a pas compris que la France avait changé, qu'on ne pouvait pas parler. Déjà, humainement, qu'on soit Zidane ou on ne peut pas parler des gens comme ça. Donc, c'est très bien que la fédération l'ait mise à pied.
On va marquer une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après, messieurs. 0153483000. Je vous sollicite, chers amis auditeurs, pour savoir si vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se dire. Gamal Abinaï Bouba et mais également aussi Nabil Aït Nakache. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, 18h54, c'est avec Ibouba, avec Nabil Aït Nakache, avec également Gamal Abinaï. direction le Standard, où je vais peut-être prendre quelques auditeurs avant de poursuivre le débat des informés, justement, qui sont avec nous. Ils nous appellent du 92, mais quelle ville du 92, Rafik ? Bonsoir, Rafik.
Oui, bonsoir, Adil, merveux, c'est Rafik Temgari.
Ah, donc, Temgari, comment ça va ? Vous nous avez manqué.
Bah, superbe, excellent. Bah, je pense qu'on se verra vendredi. Mais excellent débat, sincèrement, excellent débat. Je voulais juste saluer un petit tweet que je trouve remarquable, celui de Kylian Mbappé, qui a réagi tout de suite, et ça c'est vraiment à saluer, parce que ce n'était pas le cas d'autres joueurs de foot ou d'autres personnes, je dirais, spécialisées dans le sport. Et je tiens aussi à rappeler qu'il y a aussi énormément de problèmes dans les à la tête des différentes fédérations, pour ne pas citer en l'occurrence celle du rugby après celle du foot. Donc c'est vraiment très récurrent dans le monde sportif. Et il faut le dire, la ministre du sport, elle a pas se mêlée du domaine sportif, mais là elle a été remarquable, elle a mis en place une commission, et ça c'est vraiment aussi à saluer. Donc bravo à Kylian, et il faudrait que d'autres suivent.
C'est vrai.
Qu'on n'ait pas cette timidité de dénoncer des choses que pour la majorité c'est pas faisable, mais par ordre protocolaire.
Et bien merci Rafik de nous l'avoir rappelé.
Merci à vous, merci, à bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir, et merci, c'est vrai, il a raison, bravo, et je rajouterai respect à Kylian Mbappé. Fatia, tu nous appelles de Paris. Bonsoir Fatia.
Allô.
Bonsoir ma chère Fatia.
Bonsoir Adil, bonsoir à tout le plateau. Alors, j'ai entendu le sujet de Monsieur Le Graët, d'accord, Noël Le Graët. Et je vais vous dire, même si je ne suis pas... je ne suis pas très jeune non plus, je ne suis pas du tout jeune, mais l'histoire de... c'est bizarre que Monsieur Le Graët, il ait surgi, parce que moi, ça fait quelques années que ça trotte, ça turbine dans ma tête. Ça avait commencé par, justement, bizarrement, par Zidane et Benzema. Et ben, moi, pour moi, ça remonte à... D'ailleurs, il y a des articles où Le Graët lui-même, il a dit que qu'il avait subi des appels, enfin, des pics pour se débarrasser de Benzema, par exemple. Bon, moi, je me rappelle d'une chose, c'est que après les histoires de les nuits debout, la réforme du travail sous un certain gouvernement, que je ne vais pas nommer là, et ben c'est cette époque-là, j'ai lu quelque part sur un journal, dans un journal, un grand journal, où Le Graët lui-même avait dit le problème de Benzema sont ses origines maghrébines. Mais ce que je sais,
Ah bon?
Oui, je l'ai lu. Et là, je vais vous dire un truc, j'arrive pas à retrouver. J'ai cherché partout, j'ai pas retrouvé. Parce qu'après, quand il s'agissait dernièrement pour la, quand Benzema a fait son retour et tout, j'ai cherché partout, j'ai fouiné, j'ai essayé de trouver des dires de Le Graët. J'ai dit peut-être que ça a été effacé quelque part. Par contre, ce qui n'a pas effacé, en cherchant, je retombe sur en 2016. Alors, c'est l'équipe Enquête, donc le magazine de la rédaction de l'équipe 21, qui a publié un long article. Celui-là, il est facilement trouvable. Il a été, bon, moi, je l'ai lu reporté par un certain monsieur Hamza Hizir, publié le 19 janvier 2016. Et il est passé, donc, le 19 janvier 2016, où Noël Le Graët, là, c'était une période où il défendait, justement, Benzema. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a une chose qui a été retenue en titre. Donc, je vois TF1, info, hein. Il faut dire quoi? Donc, entre guillemets, il faut dire quoi? Point d'interrogation. À mort l'arabe, point d'interrogation, fermer les guillemets, en parlant de Benzema. Bon. Ça veut dire qu'il a subi. Bon, maintenant, en ce qui concerne Zidane lui-même. L'époque où Zidane allait rejoindre le Real Madrid, il y avait... sur le journal, le fameux journal.
Pardon, Fatia, hein, mais on n'a pas le temps. On va pas faire, on refaire le feuilleton.
Ah, d'accord. Bon,
le
bon, moi, je, moi,
de toute non, l'histoire.
Mais moi, je vous dis qu'au départ, il a défendu Benzema, bec et ongle. Hein. Il l'a vraiment défendu.
Non, mais on va creuser ça. On va creuser ça, on va regarder.
Je, malgré les problèmes qu'il y a actuellement avec Zidane, bon, c'était des trucs, mais il avait défendu Benzema. Mmh. Moi, je le confirme et je ne me trompe pas. Je sais ce que j'ai lu et ce qui s'est dit.
Non, non, mais je ne remets pas en cause ce que vous avez lu ni ce que vous avez vu, etc. Merci Fatia.
Et vous y verrez la
Fatia,
vérité.
Fatia, je vous dis à très bientôt. On va vérifier, vous inquiétez pas, on va vérifier tout ça, tout ce que vous nous dites, évidemment. Moi, je ne suis pas là pour commenter vos propos. Hein. Vous dites évidemment que vous l'avez lu. Il n'y a aucun problème, ma chère Fatia. Allez, second sujet, messieurs. Ibouba, Nabil Takash et notamment Gamal Abina, vous savez, est-ce qu'on s'oriente tout de suite vers une mobilisation massive qui risque de s'inscrire dans les esprits? Notamment, on fait référence à 1995. Et je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de parler de cette réforme des retraites qui s'annonce, mais explosive, Nabil Takash.
Oui, enfin, alors, je ne sais pas si elle va être explosive.
Bah, en tout cas, ils ont donné le ton, les syndicats, non?
Oui, les syndicats, ils sont dans leur rôle. Et,
ils ont donné le ton.
Je pense que les Français se rendront vite compte que c'est quand même une retraite, enfin, une réforme qui assure quand même son premier objectif, l'équilibre, parce qu'il faut voir les chiffres. Hein, il y a 50 ans, on avait 5 actifs qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, on en a moins de 2. Donc il y a un moment où on va pas sortir de là. Enfin, il faut pouvoir réformer ses retraites et pouvoir les financer. Sinon, on peut pas faire perdurer notre modèle. Après, ce n'est pas du tout un projet brutal. On le voit, c'est très progressif. Le recul va se faire très 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 progressivement. On prend en compte quand même la pénibilité, on prend un certain nombre d'éléments de justice qui en font que c'est quand même pas une retraite, que ce n'est pas une mauvaise retraite. Donc les Français s'en rendront compte. Je crois pas. Il y aura une mobilisation, bien évidemment. Les syndicats l'ont quand même martelé ces derniers jours. Mais encore une fois, les Français s'en rendront compte. Et on verra bien ce qui va se passer dans les
prochains jours.
Il y a un débat qui va avoir lieu.
Et qui s'annonce houleux ici.
Qui s'annonce houleux à l'Assemblée nationale. Mais les oppositions pourront aussi faire part de leurs observations et amender le texte.
Faisons un tour de table justement. Ibouba et ensuite Gamal Abina. Ah, cette réforme des retraites, ça passe, ça casse.
Ça passe, ça casse. Je crois que je vais peut-être sûrement, donc moi, à ma vision spontanée des choses, Nabila, je dirais bien que c'est une réforme qui est très brutale pour moi, ma vision spontanée des choses. Puisqu'aujourd'hui, ce que je comprends, c'est parce que justement, ils sont en train de mettre la poudre aux yeux des Français. Et je crois que ça
ne. C'est ce que disent nos auditeurs.
Oui, exactement. Et ça ne pourra pas marcher. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire que ce n'est pas justement le problème des syndicalistes, tout simplement, mais c'est le problème de tous les Français. Et que. Aujourd'hui,
il y a une colère, vous le sentez?
Il y a une colère, exactement.
Ah oui, il y a une colère
excessive. Aujourd'hui, tout le monde a une page de vie quasiment dénaturée, parce que si nous pensons effectivement à l'avenir de nos enfants, je crois que voilà, c'est lamentable pour un pays qui s'appelle la France. Aujourd'hui, je crois que les gens, ils devaient avoir une certaine rationalité. Pourquoi insister tant pour cela? Depuis des années, on est en train de se battre, on est en train de la financer. Il y a des façons de la financer, mon cher ami. Aujourd'hui, pour financer des retraites, je crois qu'il y a d'autres moyens. Il y en a plein. La finance, elle est là pourquoi? Bercy, Bercy, elle est là pourquoi? Bercy, elle est là pourquoi? Il faudra le dire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si les politiques ne sont pas capables de trouver des solutions palliables aux problèmes des Français, je crois que c'est un problème. C'est soit une fois.
Non, mais pardon, mais vous savez comment le système des retraites se finance?
Non,
c'est les cotisations.
Écoutez,
donc il n'y a pas d'argent extérieur qui vient financer un système.
Mais il faudra le faire si c'est nécessaire.
Non, mais c'est pas comme
ça. Parce que si on amène aujourd'hui, selon les débats, ils disent que aujourd'hui, donc il faudra arriver à un stade où il faudra payer les retraités au SMIC. Et je crois que c'est important. Pourquoi le faire? C'est parce que justement là.
Ben on va mettre les pieds dans le plat.
Il y a plusieurs éléments d'être donné l'instant. Premier élément, M. Macron a des problèmes de mémoire. Il avait promis qu'il descendra à 60. Il renégocie 64-65. Je parle de promesses de campagne qui ne sont évidemment pas tenues.
65 pendant la campagne.
Il avait dit 63 quand il était en difficulté. Mais je me rappelle toujours ce qui est dit au moment où ça arrive.
Alors c'est... il a dit quoi?
Au début 65, 65, après 63.
Vous le représentant justement de la République.
Après 63,
de Renaissance,
65.
63 au second tour parce qu'il sentait qu'il était en difficulté face à Le Pen. C'est sa dernière parole. Je rappelle quand même parce que ça c'est l'histoire. Tout le monde peut écouter et regarder sur Internet.
Ah oui, ça me revient.
Voilà.
Il a raison, Gamal.
Donc
ça me revient.
C'était une négociation.
Il avait même déclaré ça à la télévision, dans une chaîne news. Il a dit je suis prêt à bouger.
Exactement.
Je me demande si c'est pas avec Brice Toussaint.
Tout à fait. Et ce n'est pas figé.
C'est pas figé. Mais le programme disait 65 ans.
Non, sa promesse, second tour, c'est ça. Donc moi, je tiens compte des paroles et pas des programmes. Quand un homme qui est chef de l'État s'engage, il doit tenir sa parole et pas sa et pas son programme. Deuxième chose, cette réforme des retraites, alors je viens d'entendre un débat sur la question de comment la financer. D'abord, pour commencer, la question qui se pose, c'est est-ce que la retraite aujourd'hui est en déséquilibre ? Non. Elle est excédentaire. Donc, ils sont en train d'anticiper un mouvement. Elle est excédentaire actuellement, c'est facile
là,
à vérifier.
Là.
Actuellement, juste, elle est excédentaire.
Mais dans quelques années, elle n'est plus.
Dans quelques années, dans les projections.
Accumuler des,
dans
des
projections.
C'est quoi dans quelques années ?
Non, mais dans l'eau de 10 ans.
2024, 2026.
Non, 10 ans. C'est pas du même. Mais bon, on va revenir sur la question qu'il pose.
Bah, parlons-en.
Est-ce que la réforme des retraites était une priorité alors qu'aujourd'hui, les Français ont une perte de pouvoir d'achat de 10%? Première question. Deuxièmement, pour le financement de la réforme. Alors moi, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'économies, j'ai adoré ça quand j'étais jeune. Et il n'est pas compliqué de financer une réforme quand on fait le travail. C'est quoi le travail ? Pendant le Covid, on nous a dit on va faire de la relocalisation. On va ramener les entreprises en France. Quand on ramène des entreprises et de l'outil industriel, donc de la création de richesses et d'emplois, mécaniquement, on alimente donc les caisses pour les différentes caisses maladies, retraites et autres, et donc on résorbe le problème. Le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'est pas capable de ramener en France, pour donner un intérêt en termes de travail et en termes de richesse, des entreprises vers le territoire français pour créer de la richesse.
Mais c'est pas vrai.
Ce que vous êtes en train de dire, il y a eu une désindustrialisation ces 30 et 40 dernières années.
Tout à fait.
C'est un fait. Oui. Vous avez raison. Ça, je dis pas ça. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que l'action qui a été menée sur le premier quinquennat et qui est poursuivie aujourd'hui, c'est la réindustrialisation.
Ah bon,
et ça se décide pas en un an, deux ans, trois ans.
Mais là, on parle de choix politiques.
Vous savez, oui, mais les choix politiques. On n'est pas comptable de ce qui s'est passé pendant 40 ans. Et bien
l'action,
voilà.
On dit que l'action de M. Macron, c'est 10 ans quand même.
Oui, mais,
sur 10 ans, il peut quand même faire des mesures incitatoires.
Qui est le pays d'Europe qui accueille le plus d'investissements étrangers ? Mais c'est la France.
Les idées industrielles, on parle d'industrie, restons sur l'industrie.
Oui, mais même de l'industriel.
Non, il n'y a pas d'idée industrielle en France, c'est faux. Il n'y a pas d'industrie. Les deux secteurs.
Il n'y a pas d'industrie, on n'est pas le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est 80%.
Il n'y a quasiment plus d'industrie. Il reste deux industries automobiles qui sont pour la plupart du temps délocalisées. On le voit bien en Afrique du Nord, c'est une chose. Deuxième chose, les Français ne sont pas capables d'attirer l'investissement étranger parce que les charges sont trop lourdes. Donc les réformes doivent être faites structurelles pour les nouveaux entrants, pour ceux qui veulent investir sur le territoire français. C'est leur dire, la France n'est plus un pays désindustrialisé. On vous mettra un parc industriel en place pour que vous puissiez venir avec l'incitation.
Avec
de l'incitation sérieuse.
La réforme des retraites.
Il y avait un plan de relance de 100 milliards. Enfin, tout ça, c'est...
Messieurs.
Mais moi, j'aimerais quand même dire quelque chose sur le financement des retraites.
Allez-y. Nabila Itakash.
Vous parliez, vous, du financement sur le nombre de cotisants, etc. Vous disiez qu'il n'y a pas de problème de déficit, etc. Vous
savez que les projections...
Aujourd'hui. Oui, mais vous savez, même dans quelques années, on base ça sur un chômage à 4,5%. Alors, on fait tout pour arriver au plein emploi.
On n'y est pas encore,
mais on y va. On a quand même baissé le chômage ces dernières années. C'est quand même... Donc, le financement du système des retraites, il est basé sur une projection avec un taux de chômage à 4,5%. On n'y est pas. Donc, les déficits vont arriver très rapidement et il va falloir les combler. Donc, on peut pas se permettre
Une seconde, calcul n'est pas valable. Pourquoi ? Juste très rapidement.
Après, Ibouba, parce que tu réclames la parole.
C'est les mécaniques économiques qui sont un peu trop simplistes. Si on part avec l'idée qu'on a un chômage à 4,5, même 2%, disons 2%, sur un tissu industriel qui est faible.
C'est-à-dire des cotisations à hauteur du taux d'emploi dans la société.
Sur un tissu industriel qui est faible, sur une création de richesse qui est faible. Je parle de création de richesse, pas le fait d'être employé. Parce que la France, c'est un pays vieillissant. Donc les baby boomers vont à la retraite. Ce qui reste comme jeunes ne sont pas nombreux, on est d'accord, c'est ce qui fait les déficits. Mais même si on a un chômage très réduit, ça ne suffit pas à répondre aux besoins de financement.
Moi, je suis d'accord
avec vous. Il faut élargir l'assiette de cotisation, donc plus d'emplois créés.
Ou alors plus.
Non, travailler plus, c'est pas c'est une mécanique qui est idiote.
On nous demande 43 ans.
Mais travailler plus, ça règle pas le problème, ça le déporte.
Ça le déporte pas.
Ça permet d'avoir plus de travailler plus longtemps de 5 ans, 5 ans déporte, c'est tout.
Alors, moi, je crois qu'il y a un problème. Nabila, je peux le comprendre, puisque comme il représente la République en marche, c'est normal.
C'est
normal qu'il défende son président. Et Nabila, moi, je voudrais juste vous rappeler, justement, que vous avez certains problèmes. Non, mais c'est vrai. J'ai le sourire sur les lèvres en vous répondant, mais je sais que c'est une réalité. Aujourd'hui, ce problème des retraites, il faudra le traiter avec une certaine acuité. Vous savez très bien que vous nous dites aujourd'hui comment est-ce qu'il faut faire pour financer. Mais aujourd'hui, le cas de l'Ukraine est là aujourd'hui. Ce n'est pas le seul problème. Pourtant, on y pense, on a trouvé une solution pour pouvoir pallier au problème des Ukrainiens.
parce que justement, c'est un problème européen. Je ne mélange pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, les Français sont frappés par la mélancolie, la tristesse, une page de vie quasiment dénaturée. Et je voudrais savoir, je voudrais juste.
Là, on parle de l'avenir de la démocratie sur le continent européen.
Je parle de l'avenir de la démocratie aussi. Aujourd'hui, avant de parler de d'autres pays ou de parler donc de notre membre.
On laisse en fait un pays qui s'est fait envahir par une puissance.
On se fait envahir aussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous pensez à la cotisation,
par exemple, je ne comprends pas votre propos.
De je ne sais pas combien de pourcents. C'est pas possible, dis donc. Mais nos enfants, je ne parle même pas de nous autres, il faut travailler 42 ans, il faut cotiser combien? Et en plus de ça, ils nous mettent la poudre aux yeux pour nous dire pour nous donner des explications qui sont purement bidons. Vous ne pouvez pas comprendre les explications qu'on vous donne. Mais Bercy est là, pourquoi Nabila? C'est pas parce que vous êtes.
Alors, Nabil.
Mais déjà, vous savez que quand je dis que c'est une réforme quand même qui est assez juste, c'est 40% des personnes en France partiront avant 64 ans grâce à tous les dispositifs qui sont
Mis
en place. Il faut cotiser 42 ans.
Nabil Aitakash, on a retrouvé le sonore, puisque Gama Labina, nous on aime bien qu'on soit factuel, justement les propos du chef de l'État en pleine campagne, justement, écoutons Emmanuel Macron.
Le 65 ans, j'ai dit, on le ferait, idée de référence. Entrée de jeu, si je puis dire, 4 mois de plus par an. Si vous regardez les choses, ça veut dire que c'est pas avant 2030 qu'on sera à 65 ans. Donc ça va prendre du temps. Donc tout ça se discute. Ça veut dire que les gens qui sont en train de partir à la retraite ne seront pas touchés par la réforme. Ça veut dire que les gens qui étaient à un an, on va leur demander de travailler peut-être 3-4 mois de plus. Et puis l'année d'après, 3-4 mois de plus. Donc ça va se faire progressivement.
Ensuite, si je peux me permettre, Emmanuel Macron, vous faites ce soir, et c'est très important aussi, de la pédagogie. Et sur cette mesure, mais je crois que les Français ont déjà bien compris.
Je ne suis pas sûr parce que
de quoi il s'agissait.
C'est pas comme vous le voyez.
Admettons.
Non.
Admettons
j'étais tout à l'heure, vous savez, j'étais avec des ouvriers chez Jean Lefebvre qui était justement
Emmanuel
sur
Macron,
la base logistique.
Entre les 65 ans que vous proposez et les 60 ans de Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
Alors les 60 ans, je vais vous dire, là-dessus, je vais être honnête. 60 ans, revenir à 60 ans, alors que notre espérance de vie continue d'augmenter. Mmh. Il faut m'expliquer comment on le finance. Si je pourrais vous dire, si j'étais un démago et que je voulais me faire élire, je dirais on va faire 60 ans. Mais qui le finance? Vous payez plus de cotisations et vous réduisez.
Faire l'intégralité en tout cas de l'interview. C'est vrai que Anthony, s'il peut nous retrouver.
Non, là, c'est pas le bon discours, c'est l'entre-deux-tours.
En tout cas, c'était chez nos confrères de BFM TV, au micro de Bruce Toussaint.
Bon, déjà,
alors,
Gama Labina, je vais être honnête, une chose qui est
continuons.
La question ukrainienne, qui rentre pas en considération, parce que c'est une sorte de prétexte comme ça, un peu fantaisiste pour justifier de la crise actuelle économique qui n'a rien à voir avec l'Ukraine au départ.
Personne n'a justifié la crise ukrainienne, la crise économique à cause de la crise.
Beaucoup se cachent derrière ça pour dire qu'il y a une accélération, mais c'est pas le sujet. De dire, là je suis pas d'accord avec vous, parce que ça c'est un terme qui me choque, moi je suis pas pro-russe, donc c'est réglé par contre. On est en Europe, c'est l'Europe occidentale, je le rappelle. Il aurait fallu le faire, moi je dis qu'en 2003 en Irak, il aurait fallu empêcher la barbarie américaine.
Je suis d'accord avec vous.
Voilà, donc là-dessus, il y a un deux poids deux mesures.
Non, mais on connaît tous les erreurs de.
Non, mais c'est pas l'erreur, c'est faute.
On connaît toutes les erreurs, les fautes historiques de George Bush à ce niveau-là. Je voyais encore qu'aujourd'hui, il avait été interpellé dans un débat en lui demandant de s'excuser pour la mort de centaines de milliers d'Irakiens. Mais là, on parle de l'Ukraine aujourd'hui.
L'Ukraine, c'est plus qu'une différence.
Prend sa responsabilité.
C'est pas le sujet de l'Ukraine. Messieurs, Gama Labina, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Est-ce que cette réforme, cette mobilisation s'annonce massive?
Alors, ce qui se passe, c'est
le 19 janvier, c'est noté, ça y est, c'est acté. Tous les syndicats appellent à une mobilisation le 19 janvier.
Alors, il faut savoir une chose. D'abord, la CGT est en minorité maintenant. C'est plus le principal syndicat, c'est la CGT. Ouais. Voilà, ils sont cassés la figure parce que l'extrême gauche est cassée la figure. Ce qui se passe, c'est que le problème des syndicats et de cette mobilisation, c'est qu'elle a, pour le coup, une petite chance, c'est pas certain, d'aboutir, dans la mesure où ils sont peut-être tous fédérés, mais c'est vrai que le peuple est opposé à la réforme des retraites massivement. Ça, c'est des chiffres qui parlent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et la peur s'explique. Parce qu'on leur a promis tout un tas de choses. Je vais prendre un exemple très concret, parce qu'on a tapé très fort. Pendant le Covid, on était incapable de fabriquer des masques. 2 ans après, on est toujours incapable de fabriquer des masques. Ça vous donne une idée de la logique.
Ouais.
Donc, quand on n'est pas capable de trouver des solutions, alors qu'on promet des choses, et ça a été promis, je dis pas qu'ils sont comptables du passé, je suis d'accord, c'est pas eux les responsables, c'est François Mitterrand. Là, c'est très clair. Donc, j'attaque la gauche. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, quand on a une crise endémique, des difficultés structurelles, et c'est vrai que le chômage a reculé, par des contrats aidés, il faut le reconnaître. J'en bénéficie un petit peu, j'ai des employés qui sont des contrats aidés. Mais il n'en demeure pas moins que c'est vrai que ce recul du chômage qui est circonstanciel, qui fait suite aux baby-boomers qui partent à la retraite, tout ça...
Il n'est pas circonstanciel, ça fait quand même... ça avait commencé d'ailleurs sous le quinquennat précédent.
Sous le quinquennat, oui, absolument. François
Hollande. C'était un recul très faible.
Il y a des réformes qui ont été...
Il y a une remontée du chômage, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est M. Macron qui l'a fait baisser. Hollande a fait remonter le chômage, il n'a pas fini sur une baisse. Mais simplement pour
dire quoi. Il n'a pas fini sur une baisse. Mais le temps, vous savez, quand
les mécanismes
se mettent en place.
Oui, je suis d'accord là-dessus, on ne peut pas changer tout en 3 jours. Mais une chose est sûre, moi, ce qui me choque le plus, c'est que je ne comprends pas cette espèce d'obsession sur la retraite, alors qu'aujourd'hui, il y a des problématiques beaucoup plus graves. Par exemple, moi, j'aurais aimé, vous êtes du gouvernement de Macron, donc en l'occurrence, de leur mouvement, j'aurais aimé entendre contrôler les prix. Un peu de courage.
Pourquoi il n'y a pas le contrôle des prix, c'est vrai, fait. Il l'a dit ici, il y a plusieurs reprises, contrôler les prix, on en parle, on marque une pause, on se retrouve. Tiens, c'est une question qu'il a posée qui me semble intéressante. 0153483000, on se retrouve pour la dernière ligne droite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec Ibouba, Nabil et Takash et enfin Kamal Abina.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face continue et c'est la dernière ligne droite. Il est 19h19, bientôt 20 justement, et je voudrais qu'on finisse sur cette réforme des retraites justement. Est-ce que cette manifestation, on peut s'attendre à celle qui, dont on fait référence régulièrement, 1995, oui ou non, Kamal Abina?
Je ne crois pas une seconde.
Ah.
Parce que le contexte n'est pas le même, 95 ça touchait la jeunesse, ça touchait la réforme, le fameux contrat, la nouvelle embauche, et ça donnait sentiment aux jeunes, parce que c'est par les jeunes que ça passe, c'est pas par les vieux, il faut être très clair. Ça donnait sentiment aux jeunes qu'ils étaient en danger pour leur avenir. Là, la question qui se pose, c'est Borne qui le fait très bien, elle est très habile, elle n'a pas la majorité des Français, elle sait qu'ils sont opposés, et elle dit, c'est même pas Borne qui l'a dit d'ailleurs, c'est Madame Macron, interview à TF1 si je me trompe pas, qui a dit oui mais les jeunes la comprennent cette réforme, c'est-à-dire que de son point de vue, les jeunes sont avec elle, et elle ne parle qu'aux jeunes aujourd'hui.
Nabil et Takash, l'opposition, le débat qui s'installe au sein de l'hémicycle, est-ce qu'il reste d'être houleux? Et puis,
On va revoir le même cirque de l'opposition, enfin des oppositions qui cèdent, hein, qui aiment beaucoup céder en ce moment, à savoir la LFI et enfin la NUPES et le Rassemblement National. Mais globalement, je pense que les autres vont essayer d'être constructifs. Les Républicains ont tenu, par exemple, à ce qu'il y ait une attention portée aux petites retraites. Le texte a répondu à cette attente. Donc non, je pense que le texte passera, mais après des débats et un cirque organisé par nos amis des oppositions.
Ibouba ?
Oui, mais moi je crois que ça sera une erreur fatale que la population ne puisse pas sortir aujourd'hui pour aider bien sûr ces syndicalistes, puisque c'est un problème qui est là, c'est un problème lancinant qui doit être traité avec une certaine acuité et pas par n'importe qui, mais par la population française, parce que nous sommes seuls à pouvoir...
Ils veulent l'être, hein.
Oui, bien sûr. Mais il faut sortir massivement. Nous avons vu, par exemple, en 2015, vous parlez de 2015, même en 2019, hein, nous avons eu à peu près plus de 806 000 personnes qui étaient dehors, qui sont sorties. Et je crois que cette fois-ci, le nombre sera triplé ou quadruplé même. Puisque les Français, franchement, ils en ont marre. Et ils savent très bien à quoi s'attendre. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, mais c'est l'avenir de nos enfants qui est hypothéqué pour cette affaire.
L'avenir des enfants hypothéqués, c'est quand il y a des déficits qui se creusent, qu'il n'y a plus d'argent pour financer des politiques publiques. Si vous voulez que demain vos enfants aient une retraite, il faut aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas faire les erreurs qui ont été faites dans le passé, c'est-à-dire laisser ça en pensant que ça va se financer tout seul.
Non, mais la responsabilité, c'est effectivement être créatif aussi.
On l'aura compris, cette réforme, pour vous, vous considérez qu'elle est essentielle?
Elle est essentielle pour assurer le financement de notre système. C'est pas possible en fait autrement. Et vous le voyez, on a quand même des difficultés à trouver des marges de manœuvre. Il faut pouvoir cette retraite. D'ailleurs, l'allongement du nombre d'années de cotisation, c'est fait pour financer uniquement les retraites. On n'est pas, là à faire des économies pour aller financer l'école ou la santé. Aspects, c'est pas ça. C'est que pour, c'est strictement pour les retraites.
Mais les régimes spéciaux qui sont sur la table. Il faut pas oublier. Comment? Les régimes spéciaux aussi. Les régimes spéciaux sont dans la balance. Hein. Mais j'aurais dit simplement un truc.
Moi, vous parle de régimes spéciaux.
Oui, les régimes spéciaux. Voilà, oui, j'ai bien compris.
C'est là-dessus que ça a commencé quand même. C'est pas
absolument.
La durée du travail. Mais ce qui est important à rappeler quand même, c'est pour
ça. C'est là que le débat se cristallise.
Sur mon propos de tout à l'heure. J'aime bien comparer ce qui est comparable et ce qui ne l'est plus aujourd'hui, puisque les disproportions sont tellement énormes. Un pays à 3850 milliards de dollars de PIB, l'Allemagne, face à un pays à 2800 milliards de PIB, la France. L'Allemagne a une industrie très puissante. Elle a au moins une dizaine de constructeurs automobiles. L'Allemagne a garanti. Et ses retraites ne posent pas de problème parce qu'ils ont des cotisants.
Mais c'est quoi l'âge de départ à la retraite en Allemagne? C'est 65 ans, je crois.
Non, 63 ans.
Passer à 67.
64 ans.
Non, il ne faut pas dire.
64 ans en Allemagne.
En tout cas, il est plus élevé qu'en France.
Il est plus élevé qu'en France.
Il est plus élevé qu'en France.
Mais l'Allemagne,
encore une fois,
l'Allemagne a les moyens.
Si vous voulez que je vous dise qu'on a, qu'on a un problème, en effet, qu'on a laissé partir notre industrie, je suis d'accord avec vous. La première mandature, encore une fois, je vous l'ai dit, Macron, c'est ce retard qu'on essaie de rattraper. On peut pas le rattraper.
L'Allemagne, c'est 65 ans.
Voilà.
Mais quoi qu'il en soit, pour dire, voilà, oui, 65 ans, je sais.
Ils ont une industrie, oui, ils ont une cogestion.
Voilà, tous leurs comptes sont dans le vert. Ce que je veux dire, c'est que
mais elle repousse à 67 ans. Qu'ils ont fait les à 67 ans d'ici 2029.
Ils ont fait, vous savez,
pas seulement.
Ils ont fait le commerce extérieur. Oui. Schröder, la gauche, les sociodémocrates.
Le commerce extérieur est excellent. Oui, le commerce extérieur est excédentaire, les déficits sont maîtrisés, l'endettement est maîtrisé, ça n'a rien à voir avec la France.
Messieurs, on avance, je voudrais qu'on parle de Anne Hidalgo, s'il vous plaît, et son code de la rue. Elle veut mettre fin au comportement dangereux, devenu évidemment une monnaie courante dans les rues de la capitale. Je fais référence, vous savez, à toutes ces incivilités cyclistes, les trottes, etc. Alors elle promet un code de la rue parisien pour remettre de l'ordre dans le trafic. Est-ce que c'est nécessaire?
Oui,
ça vous fait sourire.
C'est nécessaire ou pas nécessaire, mais c'est elle qui l'a créé, madame Hidalgo. Le fond du problème est qu'aujourd'hui, les Français, ils trament. Prenez par exemple à 8
heures. Ces comportements dangereux, c'est elle qui les a créés.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais attendez, il y a tellement de sens interdit. Il y a tellement de sens interdit quand vous prenez les voitures de sens unique, sens interdit. Ouais. Dans une ville comme Paris, écoutez, vous prenez à 8 heures du matin, vous voyez les bouchons que nous avons. Prenez la rue du Châtelet, par exemple. Vous allez voir réellement si vous avez votre voiture à 8h du matin, vous êtes toujours en retard. Donc c'est des trucs similaires qui sont comme ça. On est bien, hein, pour l'incivilité et autres, c'est très bien, c'est bien beau. De toute façon, personne ne veut d'incivilité dans les rues de Paris, personne n'en veut. Mais aujourd'hui, il faudra penser ou essayer de réfléchir plus, à mon avis, à ma vision spontanée.
Alors, Nabil et Takash.
Non, mais c'est vrai que si on a envie d'être mauvais esprit, on dit que c'est elle qui a favorisé tous ces comportements. C'est pas elle qui a favorisé ces comportements. C'est vrai qu'elle a essayé d'augmenter l'offre de mauvilité, l'offre de transport.
C'est pas une question de mauvaise
les trottinettes, les vélos, etc. Non, mais ça c'est
non,
pas là.
Non, pas du tout. Mais c'est une réalité.
C'est pas elle qui a créé. C'est pas elle
qui a créé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est ce que la population vit. Si vous prenez, je vous donne l'exemple de chacun. Non, mais votre voiture, vous allez voir.
Non, mais
vous avez que des sens unique, que des sens interdits.
Je vais répondre à ça. Dans la réalité, c'est que toutes les villes, toutes les grandes villes du monde vivent les tensions qu'on est en train de vivre à Paris. Paris n'est pas exceptionnel. C'est pas que Madame Hidalgo. Il faut aller voir dans les grandes capitales du Sud. Il faut aller voir à Bangkok. Il faut aller voir à New York. Il faut aller voir à Sao Paulo.
C'est exactement. Mais c'est pire que tout, c'est Istanbul.
Les gens que vous rencontrez vous disent la même chose.
On n'est pas à Sao Paulo. On n'est pas à New York. On n'est pas à Sao Paulo. On est bien à Paris.
Et alors.
Voilà, nous, c'est ce qui nous intéresse.
J'ai l'impression
que ce qui passe à Sao Paulo, c'est ce qui nous passe à New York.
Mais depuis tout à l'heure, quand je vous écoute, j'ai l'impression que la France vit à part. Alors, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas en autre truc, donc non, il ne faut pas faire comme. La France doit faire des choses toute seule.
Ce n'est pas toute seule.
Non,
c'est pas que chose, la France. Non, la France non,
mais on n'a pas entendu Gamal Abina.
Alors, il y a une chose que, d'abord, je félicite. J'aime pas Anne Hidalgo au niveau personnel, c'est pas ma tasse de thé, mais par contre, je la félicite pour les réformes et pour la tentative de verdir Paris. Je sais que tout le monde la critique pour ça, oui, les chantiers et tout. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, la place de la nation était une poubelle, elle en a fait une belle place. Je suis désolé, ça prend du temps, c'est dur, ça enquiquine les automobilistes. Je trouve pas normal que le centre de Paris soit encore infesté, j'ai bien dit infesté, j'utilise le terme à dessein, de voitures. On ne doit pas avoir une ville aussi sale avec des voitures partout. C'est une capitale historique et la problématique de Paris qui est pire que les autres. J'étais à Istanbul, c'est une ville immense, elle fait 15 fois Paris et pour autant c'est saturé de la circulation. Au aéroport centre-ville, mettait une heure quasiment. Alors à n'importe quelle heure de la journée. Donc vous dire que Paris effectivement n'est pas dans un microcosme, la problématique de Paris c'est que c'est une ville qui est fermée.
la grosse faute qui a été faite en 73, c'est le périph' qui l'a ceinturé. Donc, ce qui fait que tout le monde utilise le périph' pour passer de droite et de gauche d'une route. Et surtout, le pire, c'est que Paris est une ville qui est une ancienne ville. C'est pas comme Londres qui était reconstruite, ou je ne sais quelle autre capitale comme Berlin. Paris est très concentré. À part les travaux qui ont duré 17 ans du baron Haussmann pour essayer d'ouvrir un peu, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, elle n'est pas adaptée à la circulation automobile. Je pense qu'il faut vraiment des réformes pour réguler ça. Mais par contre, la question qui est posée, c'est pas la circulation automobile, c'est la sauvagerie sur les trottoirs. Absolument. C'est les trottinettes qui ont été, et là, elle a une faute, une responsabilité. Trottinettes mises n'importe comment. On doit, non, tout cela, c'était nécessaire, les trottinettes, ouais. C'est bien. Mais il aurait fallu les mettre dans des ranges trottinettes pour que ce soit bien installé et pas jeté à même le sol. Ça, c'est un problème qui se pose parce qu'il y a des gens, il y a encore une femme qui est morte récemment, elle s'est prise un coup de trottinette. Ça va vite, en plus, la trottinette. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut réformer. Et elle a raison. Je suis pas fan d'Hidalgo, mais quand elle fait un bon choix, faut lui dire oui.
Bon, eh bien écoutez, merci messieurs.
Je demande juste à voir l'efficacité pour un code qui s'applique uniquement qu'à Paris.
Oui, je crois pas une seconde.
Merci messieurs. Merci à Nabil Itakache, le représentant de Renaissance sous le département de 93. Merci à vous et
merci,
au plaisir.
Merci Adil, merci beaucoup.
Au plaisir ici même sur notre antenne. Et Bouba journaliste, merci vous.
Merci
au plaisir ici même.
Merci, au plaisir. À bientôt.
Gamal Abila.
Abila,
tu fais pas. Abila.
Abina. J'en étais là où.
Abina.
Bah, c'est un plaisir toujours partagé, comme tous les mercredis.
Absolument. À très vite.
À
la réalisation, c'était Anthony. Merci Anthony. Merci à tous les nombreux auditeurs, notamment comme chaque soir, au 01 53 48 3000. Le programme qui vous attend sur BFM. La soirée qui est attendue, Time Sport, 20h-21h. Ça, c'est Bilal Nenman. Et ensuite, après, c'est Vanessa qui vient vous accueillir au standard, au 01 53 48 3000, à partir de 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Mais surtout, le fameux dicton, c'est quoi?
On lâche rien.
On ne lâche rien.
À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.